les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous. Voilà, pour l'automne, une chronique philosophique adaptée à la météo. La fraîcheur revient tout doucement, les journées sont de plus en plus courtes et nous sommes enclins à nous coucouner en ouvrant la télévision. Et mon cœur saigne à chaque fois que je découvre la grille des programmes. Il y aurait comme une loi de la psychologie. Plus un thème est pauvre, triste, idiot, et plus il a du succès en termes d'audimat. Tout cela a certes une logique, celle de permettre aux publicités d'occuper les temps stratégiques et séduire les cerveaux affaiblis par une overdose de programmes abrutissants. Mais pourquoi nous laissons-nous faire? Et pourquoi regardons-nous ça? Pourquoi cette fascination pour la médiocrité humaine, la face noire de nos comportements? Pourquoi tout particulièrement aimons-nous la violence, les mensonges, les mesquineries des personnages de télé-réalité? Comme souvent, le problème n'est pas récent. Les lecteurs de Saint-Augustin savent que ce dernier, au IVe siècle de notre ère, faisait face aux mêmes problématiques. Certes, il ne connaissait pas la télévision, mais il assistait à des pièces de théâtre dont la médiocrité ne doit rien aux télé-réalités actuelles. Il ne faut pas s'imaginer Saint-Augustin, père de l'Église, comme un type austère et ennuyeux. Bien au contraire, né en 354 et mort en 480, ce berbère de culture latine a marqué les esprits grâce à ses confessions, test initiatique où il raconte son parcours intellectuel et ses premières années. Mais à 17 ans, lorsqu'il arriva à Carthage, Saint-Augustin y découvrit une vie de plaisir, de décadence, de spectacle et d'exagération. Il vivait alors en concubinage et avait un enfant. Il faisait l'éloge de la rhétorique, c'est-à-dire l'art des beaux discours, et voulait être avocat avant de découvrir le christianisme, de se convertir et de devenir évêque. Et au milieu de tout cela, il allait au théâtre pour voir des spectacles d'une étrange modernité, car il montrait toute la palette des affects humains. Amour passionné, trahison, adultère, mensonge, etc. Je sais que cela va paraître surprenant, mais l'attitude de Saint-Augustin est très proche de la fascination que nous avons, nous, téléspectateurs, face à des émissions à l'intérêt intellectuel si douteux.
Comment ça, le théâtre ?
Oh, c'est très simple. Les pièces qu'on joue au théâtre sont absolument formidables. C'est à pleurer de rire, tu peux me croire. Demande donc à Augustin.
Augustin ? Quel Augustin ?
Eh ben, ton fils, qui d'autre ?
Et qu'est-ce que mon fils Augustin, qui est parti étudier à Mador, a à voir avec le théâtre ? Vas-y, dis-moi, hein ?
C'est à moi que tu demandes ? Demande-lui. Je l'ai vu tout récemment au théâtre où se jouait une de ses farces. Le fier soldat. Il avait l'air transporté de joie. À mon avis, il doit tenir son attrait des plaisirs de la vie de son père.
Saint-Augustin va nous expliquer le mécanisme de cette attraction incontrôlable. Imaginons la scène. Je suis, vous êtes, nous sommes assis sur nos canapés. Pizza et bière. Montre connectée au poignet pour vérifier que nous avons bien fait nos minutes d'exercice nécessaires aujourd'hui. Et nous regardons soit un talk show, ahurissant de bêtises, soit un programme de télé-réalité qui nous montre des célibataires cherchant l'âme sœur, soit un feuilleton aux multiples épisodes, ce qu'on appelait au siècle dernier des soap-opéras. Quelle différence y a-t-il avec ce que voyait Saint-Augustin ? En ce temps-là, écrivait-il, au théâtre, je partageais la joie des amants quand ils jouissaient, l'un de l'autre dans l'infamie, tout imaginaire que fut leur action dans les jeux de la scène. C'est au contraire se quitter l'un l'autre par une sorte de miséricorde, je partageais leur tristesse. Et dans les deux cas, c'était un plaisir pourtant. Nous ne voyons rien d'autre à la télévision. Des couples qui se déchirent et qui souffrent. Nous souffrons avec eux et pourtant nous y trouvons de la joie, du plaisir. Quel paradoxe. Saint-Augustin en est conscient. Il continue. Comment se fait-il qu'au théâtre, l'homme veuille souffrir devant le spectacle d'événements douloureux et tragiques, dont pourtant il ne voudrait pas lui-même pâtir? Et pourtant, il veut pâtir de la souffrance qu'il y trouve en spectateur. Et cette souffrance même fait son plaisir. Qu'est-ce là sinon une étonnante folie? Cette phrase implique que nous expliquions le sens particulier que Saint-Augustin donne au mot « pâtir ». « Pathos » en grec veut dire « souffrir », mais aussi « être passif ». La passion du Christ est le chemin de croix du Christ qui a souffert et décidé de porter toutes les souffrances de l'humanité. Mais c'est aussi l'impuissance du Christ qui doit supporter son supplice. Et nous sommes dans la même disposition d'esprit lorsque nous contemplons la bêtise, la mesquinerie et la cruauté dans nos petits écrans. Tout ce que nous cherchons à rejeter dans la vie ordinaire, nous adorons le voir en spectacle. Nous le souffrons car nous tremblons dans nos chairs et nous sommes passifs face à cet étalage écœurant. Attitude schizophrène s'il en est. La preuve, sur les grandes chaînes généralistes de la TNT, et séries policières sont légion. Nous y voyons des meurtres en série comme autant de délices, et ce qui nous remplit d'effroi dans la réalité nous remplit de bonheur et de volupté lorsque c'est sur nos écrans. Cela va même au-delà. Nous aimons en souffrir. C'est le moteur de notre intérêt pour ces spectacles. Et saint Augustin le dit lui-même. Si ces malheurs humains qui appartiennent ou au passé ou à la fiction sont traités sans que le spectateur souffre, celui-ci s'en va dégoûté et bougonnant. Mais qu'il en souffre, et il reste là, attentif et réjoui. Les larmes, voilà donc ce qu'on aime, et les souffrances.
Et voilà, je vais encore faire du binge drinking devant Netflix, du bon binge watching,
du binge boring et du binge rempli.
Saint Augustin explique cette fascination. De là venaient mes amours pour les souffrances, non pour les souffrances qui pouvaient pénétrer en moi trop profondément, car je n'aimais pas en subir de semblables à celles que j'aimais regarder, mais pour les souffrances racontées et fictives qui ne pouvaient pour ainsi dire que m'égratigner à fleur de peau. Et pourtant, comme les ongles pour ceux qui se grattent, elles engendraient des tumeurs enflammées, des abcès repoussants. J'étais infecté d'une gale honteuse. Nous y voilà. Ces spectacles nous sont agréables dans le sens où nous pouvons contempler des souffrances sans qu'elles nous touchent réellement. Nous regardons une émission où des personnes doivent vendre leur appartement en urgence, car ils sont au bord de la faillite. Quel nectar dont je me délecte. Car moi, je ne le suis pas. Oh certes, j'ai pitié d'eux, j'ai de la compassion. Mais ce sont eux, pas moi. Je peux me sentir heureux face à leur malheur. Les peines que j'endure vont me paraître plus douces. Et cette mesquinerie, saint Augustin l'appelle une gale. Car non seulement elle est contagieuse, mais en plus, elle nous démange, ne nous laisse pas tranquilles. Nous avons besoin de notre dose quotidienne de voyeurisme vicieux. Un tel souffre d'une maladie grave ? Oh, pauvre de lui, moi non. Un tel vit le grand amour ? Oh, moi non. Mais le fait de le voir me fait dire que cela existe, que cela pourrait m'arriver. Tout comme la maladie d'ailleurs. Ce que Augustin reproche à nos attitudes, c'est que ce n'est pas réellement de la miséricorde pour les peines des autres. C'est autre chose. Plutôt de la perversité, de la jalousie, de l'envie ou le contentement face au malheur des autres. Et ce que Augustin veut aussi souligner, c'est que l'addiction que représentent ces spectacles est extraordinaire. Il écrit « Je sympathisais avec la joie des amants quand ils jouissaient honteusement l'un de l'autre. Et lorsqu'ils se séparaient, une espèce de pitié me faisait partager leur tristesse. Ce double sentiment m'était un délice. Il y a donc une douceur qui nous accapare, nous prend et ne nous lâche plus. C'est une drogue douce qui excite mes pensées obscures. » La question était posée de nombreuses fois. Est-ce vraiment sain de regarder de tels spectacles ? Est-ce une forme de décadence morale ? Est-ce une forme de gale pour la pensée ?
Moi, ça me fascine de voir que le succès des émissions de merde tient juste grâce à des gens qui te disent « Non, mais moi, je regarde justement pour voir à quel point c'est de la merde. Hein. » Mais vous êtes nombreux à faire ça, en fait C'est un problème quand même, parce que le calcul de l'audience, l'audimat, ne prend pas en compte le recul avec lequel on regarde. Hein. C'est... Ou alors la merde t'intéresse vraiment, t'es merdologue peut-être, c'est ça c'est...
La question est compliquée, car Augustin était un religieux. Pour lui, le salut était en Dieu. Lui seul nous donnerait la vision de la vraie miséricorde. Au XVIIe siècle, des intégristes religieux, les jansénistes, héritiers intellectuels de saint Augustin, voulaient interdire le théâtre. Source pour eux de corruption des esprits. Racine, Corneille, Molière étaient pour eux porteurs du mal de leur époque pour la fascination des passions humaines. Aujourd'hui, faut-il aussi censurer la télévision ? Du moins, ces spectacles qui font de nous des voyeurs de la misère humaine ? Saint Augustin, à l'assaut de la télévision ? Pour répondre à cette question, il faut en poser une autre. À quoi sert l'art comme divertissement ? Est-ce que cela doit avoir une fonction, celle de nous améliorer ? Si c'est le cas, alors effectivement, la critique qu'opère saint Augustin contre ces spectacles est fondée. Regarder les misères des autres nous donne l'illusion de faire notre devoir en accompagnant les autres dans leur malheur.
La Lune, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre.
C'est pas un satellite, ça.
Ben si, c'est un satellite.
Hein. Ben non.
Il le considère comme un satellite, hein, je le sais.
Un satellite, c'est pour capter les chaînes.
Non.
La Lune, on capte les chaînes grâce à la Lune.
T'es malade ou quoi ?
C'est Armstrong qui t'a dit ça.
Non, attends, c'est quoi tes chats ? Si, c'est un satellite.
Il y a un satellite qui est sur la Lune, mais la Lune, c'est pas un satellite.
Nous regardons ces divertissements le cœur léger et nous fermons la télévision le cœur encore plus léger. Voilà le succès de ces programmes. Ils nous servent ce que nous attendons, c'est-à-dire une occasion d'exprimer nos passions, nos perversions, nos espoirs et nos joies, le tout tranquille, à l'abri devant un écran. Tout compte fait, la télévision n'a pas apporté plus que le théâtre de rue de Carthage au IVe siècle. Est-ce qu'il ne faut pas prendre conscience de cette dérive malsaine qu'est la télévision ? Je ne veux pas être moraliste, mais faut-il se laisser aller à nos instincts les plus bas ? La vraie question n'est pas de condamner la nature humaine, les désirs que nous avons et qui nous poussent à être ce pour quoi nous sommes faits. Mais cette passivité nous engourdit et nous laisse disponibles pour des publicités qui utilisent les mêmes ressorts que les spectacles dramatico-romantiques qui développent notre sensiblerie. Voilà le piège qui se referme. Avoir des minutes de cerveau disponibles pour des marques de soda américain.
Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, voile que des choses pas commerciales. Une foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle. Cartons d'emballage, des gens lavés en usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, dès qu'on est né, pour des cons alors qu'on est une foule sentimentale. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales.
Cette chronique sera rediffusée dimanche à 17h et reste disponible sur le site de Radio Pédéro sous forme de podcast. N'hésitez pas à réagir et à m'envoyer des questions ou des commentaires pour prolonger ce petit moment de philosophie. Je remercie RPH Sud et plus particulièrement Solène à la technique et au montage. Et je laisse ce dernier mot à Jacques Higelin.